Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle session Biblos. Nous allons donc poursuivre notre étude de l'Épître aux Romains et nous avons à nouveau le plaisir d'accueillir Jonathan Meyer pour nous exposer le début du chapitre 13. Avant de lui passer la parole, nous allons remettre cette soirée au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour l'occasion d'approfondir ta parole encore ce soir. Nous te remercions parce que tu désires nous parler encore par ces versets, par ce passage. Nous nous remettons à toi aussi, veuille ouvrir nos cœurs. Nous remettons aussi Jonathan pour que tu le guides dans ce qu'il aura à nous dire de ta part. Au nom du Seigneur Jésus, Amen.
Bonsoir à chacun, j'espère que vous allez bien, quel que soit le fuseau horaire dans lequel vous vivez, quel que soit le climat, quel que soit le continent. C'est une joie d'être avec vous et de partager la parole de Dieu. Ce soir, comme ça a été dit, hein, on va s'attaquer aux sept premiers versets de l'épître, enfin, du chapitre 13 de l'épître aux Romains. Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir. Et puis, avant d'entrer dans le texte, juste quelques mots par rapport au contexte. Vous vous souvenez sans doute, hein, on l'avait vu la dernière fois, on est dans la deuxième partie de l'épître aux Romains, et il y a vraiment une transition qui s'opère au début du chapitre 12, où Paul, voilà, il va dire, hein, « Je vous encourage donc », ça signifie, c'est bête de le dire, hein, mais c'est quand même important de s'en rappeler, ça signifie que ces chapitres 12, 13 et 14, ils suivent les chapitres 1 à 11. On a vu la dernière fois des relations qui découlent de l'évangile, et c'est essentiel de se souvenir qu'elles découlent. On est sauvé et par conséquent, on vit ce type de relation. Et maintenant, au chapitre 13, on va parler d'une relation, un type de relation particulière. C'est un petit peu comme si on dézoomait un tout petit peu. On n'est plus sur des relations interpersonnelles un à un, vraiment au niveau microscopique, on pourrait dire. Et puis on dézoome au niveau macroscopique et on regarde ce qui se passe dans nos relations avec la société dans son ensemble. Comment est-ce qu'on est en lien avec la société dans son ensemble? Donc en quelque sorte, c'est une extension de ce qu'on avait vu la dernière fois, mais comme la dernière fois, ça découle des vérités, de la vérité de l'évangile lui-même. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on devrait essayer de vivre par nos forces, ce n'est pas quelque chose que voilà, on attend que les non-chrétiens vivent, c'est quelque chose qu'on peut vivre parce qu'on appartient à Jésus-Christ, qu'on a été renouvelé, qu'on a été transformé. Donc on va dans quelques instants, enfin dans un petit moment, lire le texte. Vous verrez que c'est un texte qui est bref, on a 1 heure et demie pour le traiter. Il y a deux grands thèmes dans ce texte. Premièrement, les cinq premiers versets qui parlent de la relation aux autorités, en particulier de la soumission aux autorités. Et puis ensuite, les deux derniers versets qui parlent des impôts. C'est intéressant de voir comme tout d'un coup, après tous ces chapitres glorieux qui nous montrent voilà, les beautés de l'évangile, tout d'un coup, on arrive sur des sujets aussi pratiques, aussi terre à terre, aussi importants, hein, parce qu'on y est confrontés tous à un moment donné ou à un autre. Donc c'est un texte qui est assez facile à comprendre. Il n'y a pas de grandes difficultés. Par contre, c'est un thème qui est extrêmement vaste et sur lequel il y a beaucoup à dire. Et du coup, avant de nous lancer dans le texte, juste ce texte-là en particulier de Romains 13, j'aimerais prendre le temps de bien poser les fondements. Parce que Romains 13, versets 1 à 7, c'est un des textes de la Bible qui nous parle de notre relation aux autorités. Mais il y en a plein d'autres. Et c'est important de bien comprendre toute la richesse de la révélation biblique avant d'entrer spécifiquement dans ce texte-là. Alors pour ça, en guise d'introduction, et ça va être une introduction qui va être un petit peu étendue, j'aimerais prendre le temps de vous raconter quatre histoires. Pas quatre petites histoires, hein, pas quatre enfin, voilà, illustrations, mais plutôt quatre manières de voir l'histoire avec un grand H, quatre thématiques qui traversent l'histoire, l'histoire biblique. Et sur lesquels il faut être bien au clair avant d'aborder le chapitre 13 pour lui-même. Alors j'espère que vous êtes prêts, que vous avez un stylo et que vous êtes prêts à noter parce qu'on va rentrer dans ces quatre histoires. Donc la première, ce sera une histoire de l'autorité, ensuite une histoire de l'État, troisièmement, une histoire du peuple de Dieu et des autres peuples, Et puis finalement, une histoire d'Israël et de l'Église. Donc on commence simplement avec une histoire de l'autorité. Notre chapitre 13 de l'Épître aux Romains, il commence par les mots que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Donc c'est logique, c'est cohérent, ça nous demande de nous demander, mais qu'est-ce que la Bible nous dit de l'autorité? Pas seulement de l'autorité, mais aussi des problèmes d'autorité. Alors simplement, une toute petite, voilà, toute petite passage à travers toute la Bible, en tout cas là, pour ce thème-là, surtout les trois premiers chapitres de la Bible, pour bien comprendre le thème de l'autorité dans la Bible. Alors, le thème de l'autorité, il vient tout de suite, dès le départ de la Bible, hein, et j'aimerais lire avec vous Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28. Puis Dieu dit, je lis dans la version seconde 21, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Première mention un petit peu de la notion de l'autorité. Le mot autorité n'est pas là, en tout cas pas dans cette version, mais la notion de l'autorité est là avec ce commandement de dominer. Et c'est important de commencer par ce point parce que on se rend compte que l'impératif de l'autorité dans le sens biblique n'est pas quelque chose qui est fondamentalement négatif. Et il faut s'en rappeler parce que dans notre culture, on a une image globalement et assez universellement, malheureusement, négative de l'autorité. L'autorité, c'est presque assimilé à une mauvaise autorité ou à un problème d'autorité. Alors qu'à la base, on a été créé, et là, dans Genèse 1, on est avant la chute, avant l'entrée du mal dans le monde. On a été créé dans ce but-là, d'exercer l'autorité de Dieu de manière déléguée sur la création. On avance un tout petit peu. On arrive au chapitre 2, verset 18. Et là, il y a ce fameux verset, hein, l'Éternel dit. Donc, Dieu a créé un monde extraordinaire qui est bon à tout point de vue. Et puis tout d'un coup, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. De nouveau, c'est important par rapport à ce thème de l'autorité, parce qu'on voit derrière cette appellation une aide qui soit son vis-à-vis, que Dieu instaure une logique d'autorité au sein même du couple. Et à nouveau, on est avant la chute. À nouveau, il n'y a rien de mauvais. C'est sûr qu'il y a des mauvaises manières d'exercer l'autorité, on va en parler, mais l'autorité, fondamentalement, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose que Dieu a voulu. Il y a des positions d'autorité, il y a des positions voilà, qu'on pourrait dire de soumission, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on doit voir de manière négative. Et quand on va arriver à Romains 13, se soumettre aux autorités, ce n'est pas quelque chose qu'on doit voir négativement. Un tout petit peu plus loin, toujours dans Genèse 2, on a les versets 23 et 24 où il est dit. L'homme dit, cette fois, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. On a une confirmation hein, de ce rôle d'autorité d'Adam. C'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui est, voilà, exerce le leadership toujours avant l'arrivée du mal dans le monde. Et puis, chapitre 3, c'est la chute, c'est l'arrivée du mal. Alors, on va aussi voilà, décortiquer un tout petit peu ce chapitre pour bien comprendre ce thème de l'autorité et comment l'autorité bonne à l'origine devient peut engendrer en fait des problèmes d'autorité. Mais ce n'est pas l'autorité qui est mauvaise, c'est l'autorité entachée par le péché qui est mauvaise. Chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, intéressant, Satan, sachant très bien de quelle façon Dieu a créé l'humanité, il s'adresse à Ève, parce que Ève aurait été plus faible ou je sais pas quoi, elle n'aurait pas eu les mêmes attributs ou qualités qu'Adam, mais pour renverser l'autorité que Dieu avait instituée à l'origine. Et puis il arrive avec cette question insidieuse à la fin du verset 1. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Bien sûr, Dieu n'avait jamais dit ça. Dieu avait dit, vous pouvez manger tous les fruits des arbres du jardin, sauf un. Et du coup, il remet en question. Il ne demande pas à Adam, parce que Adam avait reçu le commandement. Il demande à Ève, qu'il avait entendu d'Adam le commandement. Et du coup, il renverse les positions que Dieu avait voulues. Et voilà le péché entre dans la création au verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit dans son fruit et en mangea. Alors, on ne va pas décortiquer toute la discussion avec le serpent, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'elle est prise par l'influence de Satan et elle décide de manger le fruit. Et puis ensuite, elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea. Donc tous les deux sont fautifs. Elle succombe au serpent, elle ne s'en réfère pas à Adam et lui, il est là, il est à côté et il n'intervient pas. Donc vraiment, les rôles d'autorité sont renversés et personne ne réagit de telle sorte que tout le monde est fautif. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort trois grands malheurs. Premier grand malheur, verset 10, non, pardon, verset 7. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Premier grand malheur, ils ont honte. Deuxième grand malheur, verset 10. Donc Dieu les cherche, Dieu les trouve. Et puis Satan, Adam répond à Dieu. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Qu'est-ce qu'il dit? Il a eu peur. Deuxième grand malheur. Donc premièrement la honte, deuxièmement la peur, en particulier la peur de Dieu. Et puis un peu plus loin, verset 12, l'homme répondit. Donc Dieu lui demande s'il a mangé, enfin voilà pourquoi il a mangé. Et l'homme il lui répond, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Qu'est-ce qui se passe? Troisième grand malheur, la culpabilité. Il renverse la faute, en fait, parce qu'il ne veut pas porter le poids de la culpabilité sur la femme et sur Dieu lui-même. Donc, inversion de nouveau de l'autorité. Tout semble brisé. Et puis, il va y avoir enfin, voilà, toute une série de malédictions qui vont découler de cela. Et il y en a une en particulier qui nous intéresse, c'est la deuxième malédiction qui est adressée par Dieu à la femme. C'est au verset 16. Il dit, donc c'est Dieu, il dit à la femme, pardon, deuxième partie du verset 16. Hein, donc première malédiction, ça concerne les grossesses. Et puis la deuxième malédiction, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. On voit qu'en fait, il y a la relation harmonieuse de subordination et d'autorité entre l'homme et la femme va devenir trouble. Ce qui était bon est dégradé. Et nous vivons dans un monde où l'autorité, de manière générale, est dégradée. Encore un dernier verset. Alors, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur ce chapitre 3, parce que voilà, c'est un chapitre qui contient en germe énormément de choses jusqu'à l'évangile lui-même. Mais simplement encore un verset ailleurs dans la Bible pour parler de ce thème. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11. C'est toujours par rapport aux hommes et aux femmes, mais pas que. On voit de nouveau que l'autorité, c'est quelque chose qui est bon. Donc 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, Paul écrit ceci. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Ça signifie qu'au sein même de la Trinité, entre le Père et le Fils, il y a une certaine manière, une relation d'autorité, de subordination, et du coup, ça nous montre encore une fois que l'autorité n'est pas mauvaise, et qu'en fait, s'il y a des relations d'autorité et de subordination au sein de l'humanité à différents échelons, C'est pour une bonne raison. C'est parce qu'en fait, nos relations, d'une certaine façon, elles découlent des relations au sein de la Trinité parce que nous avons été créés par ce Dieu trinitaire, à son image. Petite histoire de l'autorité. Deuxièmement, une petite histoire de l'État. Alors, on va pas lire tous les textes parce qu'on va pas avoir le temps, mais on se rend compte en lisant la Bible que l'État n'est pas quelque chose qu'on doit non plus voir négativement. Dieu a voulu des États. Il l'a voulu, on le voit déjà en germe dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, dans Genèse 1, versets 26 à 28. On est appelé non seulement à nous multiplier, non seulement à remplir la terre, mais troisièmement à dominer. L'impératif de domination nécessite dès le départ en germe une structure sociale. Ça nécessite que l'humanité soit pas juste des individus comme ça, un petit peu placés partout sur la Terre, mais qu'ils puissent se mettre ensemble et porter des projets ensemble. Donc, dès le départ, dans la pensée de Dieu, avant même la chute, l'idée que on forme une sorte de tissu social et par conséquent qu'il y ait des échelons et qu'il y ait un État, même si le terme n'y est pas, mais il était présent, il était prévu dans la pensée de Dieu. Un peu plus loin, si on regarde, ça c'est assez intéressant, dans Exode chapitre 17, les versets 14 à 20, il y a même un texte de loi, dans la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse, il y a un texte de loi qui prévoit l'intronisation d'un roi en Israël. Donc Dieu avait voulu, avant même, au moment où son peuple sort d'Égypte, il prévoit qu'il y ait sur son peuple même un État, un système qui permette de réguler la nation. Troisièmement, une troisième remarque, alors on revient un tout petit peu en arrière, dans Exode 18, les versets 20, 21 et 22, là c'est l'épisode où, juste avant d'arriver au Sinaï, vous savez, Moïse rencontre son beau-père Jéthro, et puis il juge le peuple à longueur de journée, et Jéthro lui dit, mais tu vas pas t'en sortir, tu vas pas y arriver, tu n'auras pas les forces. Il faut que tu mettes en place, pas seulement un roi, mais carrément tout un appareil d'État, avec des juges et qu'il y ait des éléments de délégation, etc. Il faut vraiment qu'il y ait une structure. Donc ça, c'est des choses qui sont bonnes. Parfois, on peut être tenté de se dire qu'en fait, il y a rien de bon dans l'État, mais en fait, on se rend compte dans la Bible qu'il y a des tas de choses qui sont bonnes, y compris dans les États que Dieu met au-dessus de nous. Troisième texte que je voulais mentionner, c'est Jérémie 29. Les versets 4 à 7, ça c'est une lettre que le prophète, enfin, que Dieu transmet à son peuple en exil. Et ils leur disent, mais en fait, enfin, je ne vais pas lire le texte, mais Dieu dit à son peuple, vous allez rester longtemps, alors mariez-vous, achetez des choses, construisez des maisons, etc. Et faites profiter, enfin, travaillez, œuvrez pour le bien des villes où vous vivrez. Ce qu'on se rend compte, c'est que même pour un État qui n'est pas Israël, Dieu encourage son peuple à œuvrer pour le bien. Donc, non seulement l'État voulu par Dieu est une bonne chose, mais même les États étrangers, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas voulus par Dieu, parce que bien sûr, rien n'échappe à la volonté de Dieu, hein, mais même les États étrangers, en dehors du peuple d'Israël, même s'ils sont ennemis, on peut œuvrer pour leur bien, parce qu'ils sont établis par Dieu. Encore juste deux versets, Jean 18, verset 36, c'est Jésus qui parle dans Jean 18, et il dit ceci, Jean 18, verset 36, Jésus répondit, Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. On se rend compte que Jésus a une royauté qui est différente. Il est en fait à lui tout seul un État différent, parce qu'il est à la tête d'un peuple parmi les nations. D'ailleurs, on voit ça un tout petit peu plus tôt, au chapitre 17. De Jean, dans chapitre 17, verset 15, Jean avait dit ceci, Jésus avait dit ceci, hein, il prit le Père et dit au Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, ses disciples, hein, mais de les préserver du mal. Ça veut signifier que nous sommes bel et bien un peuple Le peuple de Dieu, un peuple dans le monde, un peuple qui est parmi les nations. Et dernier élément que je voulais encore relever, quand même, c'est récurrent dans le livre de l'Apocalypse, que à la fin, un système d'État opposé à Dieu voit le jour. Un système, alors qui s'appelle, voilà, qui a peut-être différents noms dans le livre de l'Apocalypse, il se peut, enfin, probablement que certaines fois, on a une personne en particulier qui s'oppose à Christ, mais c'est probablement, dans certains passages d'Apocalypse, plutôt un système, vraiment un État dans l'ensemble qui est comme rongé par Satan, piloté par Satan et qui s'oppose à Dieu et à son peuple. Donc c'est pour dire que, voilà, il ne faut pas exagérer, c'est pas toujours bon, l'État. Mais c'est en tout cas pas non plus toujours mauvais et c'est voulu par Dieu dans pas mal de passages de l'Écriture. Troisièmement, une histoire du peuple de Dieu et des autres peuples. Le peuple de Dieu, ben, il a un lien particulier avec les autres peuples. Il a un lien particulier avec les autres nations. On le voit tout au départ, hein, quand Dieu choisit le premier homme de son peuple, hein, Abraham. Il lui promet plusieurs choses, en particulier une grande descendance, en particulier un grand pays, une relation particulière, hein, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te béniront. Et surtout aussi, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc dès le départ, on se rend compte que le peuple d'Israël n'avait pas un rôle, voilà, il n'était pas censé s'isoler, mais au contraire, il devait être un peuple parmi les autres peuples pour bénir toutes les nations de la terre. Dans Exode 19, verset 6, on voit aussi qu'il s'agit d'un peuple saint, d'une nation de prophètes, donc une nation qui devait représenter Dieu parmi les autres nations, une nation qui devait adorer et montrer Dieu parmi les autres nations. Quelques éléments encore sur le lien entre le peuple de Dieu et les autres peuples. Dans plusieurs passages de l'Écriture, mais entre autres dans Ézéchiel 12, les versets 13 à 15, on se rend compte que Dieu peut utiliser, y compris des nations ennemies, pour juger son propre peuple. Dans Ézéchiel 12, on voit que Dieu va envoyer Babylone pour juger son propre peuple. Donc, on peut dire que, y compris un État étranger, y compris un État ennemi, est toujours soumis à Dieu. C'est toujours Dieu qui l'a établi dans un but précis. Ça n'empêche pas que ce soit terrible, mais c'est quand même un moyen que Dieu peut utiliser. On va le voir tout à l'heure, ça va être quelque chose d'important dans notre texte de Romains 13. Et puis, finalement, les nations, en fait, s'intègrent au peuple de Dieu. Et ça, on le voit surtout de manière, bon, déjà un petit peu dans l'Ancien Testament, un petit peu dans les Évangiles aussi, mais de manière massive dans le livre des Actes, avec ce commandement au début du livre des Actes, où Jésus dit à ses disciples, vous recevrez mon esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et effectivement, en acte 2, on a la première Pentecôte. On parle, bon, c'est la Pentecôte, mais on dit des fois qu'il y a trois Pentecôtes dans le livre des Actes parce qu'il y a trois événements qui se ressemblent un petit peu. Le tout premier à Jérusalem, parmi les Juifs essentiellement, enfin totalement même, en acte 2. Puis ensuite, un peu plus loin, en acte 8, on a la Pentecôte samaritaine, où de manière similaire, les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. Et puis finalement, dans acte 10, versets 44 à 48, on a là des païens. Qui reçoivent le Saint-Esprit, qui parlent aussi en langue et manifestement qui intègrent le peuple de Dieu. Donc ce peuple de Dieu, il va devenir, voilà, s'étendre à toutes les nations et voilà, devenir un peuple fait d'hommes et de femmes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Ça, c'est un refrain qu'on voit régulièrement dans le livre de l'Apocalypse, à partir d'Apocalypse 5, verset 9. Et plusieurs fois dans le reste du livre de l'Apocalypse, on voit ça, des hommes de toute langue, de toute nation, de toute tribu, de toute race, qui sont, voilà, qui adorent Dieu. Ça, c'est le peuple de Dieu. Pour finir, une dernière petite histoire. C'est l'histoire d'Israël et de l'Église. Et c'est juste, je veux juste dérouler un tout petit peu ça pour montrer à quel point, en fait, cette question des liens à l'État a pu être diversifiée à travers les époques. Ne vous inquiétez pas, je sais que mon introduction est longue. Je sais, c'est fait exprès, mais c'est important de mettre tous ces éléments en place avant d'entrer dans le texte. Et le texte est suffisamment clair pour que ça aille quand même assez vite après. Une histoire du peuple d'Israël et de l'Église. Et ça nous montre toute la finesse du sujet, parce que le peuple de Dieu a été tant de fois dans tant de rapports différents à l'État que ça rend les choses parfois assez complexes. De 2000 avant Jésus-Christ à 1500 avant Jésus-Christ, en gros, hein, je sais que c'est un peu plus court que ça, mais là je donne des dates juste un petit peu à la louche, Israël était simplement intégré à l'Égypte. Ils n'avaient pas d'autorité propre, ils étaient sous l'autorité des Égyptiens, ils n'avaient pas de système de culte, ils n'avaient pas de système de loi, ils n'avaient pas de juge, ils étaient complètement intégrés à l'Égypte. De 1500 en gros à 1000 avant Jésus-Christ, on n'a pas vraiment le peuple d'Israël, on a plutôt 12 tribus qui sont pas très unifiées, un petit peu éparses, et puis on a des juges de temps en temps qui viennent et qui ont une certaine autorité. Plus ou moins local, rarement vraiment national. Mais voilà, on a ce système-là pendant quelques siècles. Ensuite, autour de 1000 avant Jésus-Christ, on a la royauté unifiée qui voit le jour et qui est en fait assez brève. Le temps d'un système d'État et d'une autorité unique sur Israël, il est très court. C'est le temps de Saül, c'est le temps de David, c'est le temps de Salomon. Juste trois rois, juste quelques décennies de royauté. Et puis tout de suite après Salomon, on a les deux rois qui le suivent, Roboam et Jéroboam, hein, qui vont diviser le royaume, et on va avoir le royaume du nord et le royaume du sud. Et puis, ça va aller de mal en pis. Les rois, globalement, dans le nord, sont tous mauvais. Dans le sud, sont souvent mauvais. Quelques-uns qui sont fidèles à Dieu, mais la plupart se détournent de Dieu. Si bien qu'en 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens déportent le royaume du nord. Le royaume du nord qui, donc, part dans ce territoire d'Assyrie et qui reviendra pas vraiment. Il n'y aura pas vraiment de retour. Et puis, en 586 avant Jésus-Christ, c'est le royaume du sud qui va être déporté à Babylone par les Babyloniens, donc un autre empire. Et eux, ils vont pouvoir revenir 70 années plus tard. Une partie, en tout cas, du peuple va pouvoir revenir 70 années plus tard. Mais ils reviennent toujours sous la domination médo-perse. Les Médo-Perses sont plus sympas que les Babyloniens parce qu'ils les laissent revenir, ils laissent reconstruire le temple, etc. Mais malgré tout, ils sont sous domination. Et puis après les Médo-Perses, il va y avoir Alexandre le Grand, les Grecs qui vont prendre le dessus et ils vont être sous la domination des Grecs. Et puis ensuite, après Alexandre le Grand, il va y avoir plusieurs dynasties, plusieurs groupes, enfin dans les successeurs d'Alexandre qui vont tour à tour dominés sur Israël, donc ils vont être sous la domination des Ptolémées, puis sous la domination des Séleucides, et puis pendant une brève période, ils vont retrouver une certaine autonomie, ils vont être sous la monarchie des Maccabées, et puis finalement, ils vont être sous la domination des Romains. Et puis, Jésus vient, et puis l'Église démarre, changement de système, mais toujours sous la domination des Romains, ce qui fait que l'Église va être persécutée durement. Jusqu'en 312, en 312, on a l'empereur romain Constantin qui se convertit au christianisme. Et tout d'un coup, tout change, tout bascule. De religion détestée par l'Empire, elle devient la favorite de l'Empire. Et puis du coup, beaucoup se convertissent. Et puis à la fin du IVe siècle, on a un autre empereur romain qui s'appelle Théodose Ier, qui lui va pas seulement accepter, encourager le christianisme, il va carrément faire du christianisme la seule religion de l'Empire romain. Et ça, c'est important parce que ça fausse complètement notre conception. En fait, l'idée qu'un empire ait une religion, c'était une idée un peu nouvelle. Jusqu'ici, les empires étaient globalement polythéistes, mais ici, tout d'un coup, on a une religion unique dans un empire, dans l'Empire romain. Et puis ça va être comme ça jusqu'au XVe siècle. Au XVe siècle, il y a la réforme. Et il y a, voilà, bon, il y avait déjà eu la grande division au Xe siècle entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, mais ici, on a au XVe siècle la réforme, et puis on a un nouveau principe qui arrive, en gros, du XVe au XVIIe, XVIIIe siècle. On a le principe où dans chaque ville, la religion du prince devient la religion des citoyens. Aujourd'hui, on est un peu surpris de ça, mais malgré tout, c'était un autre rapport à l'État. Et puis finalement, à partir d'à peu près du XXe siècle, on a encore un nouveau système qui se met en place entre voilà, l'Église et l'État, qui s'appelle la laïcité, qui dit qu'en fait, on n'interfère pas trop les uns avec les autres. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que c'est important de comprendre qu'il y a eu beaucoup de variantes de comment on interagit en fait avec nos autorités au travers de l'histoire. Là, je ne sais pas si vous avez compté, mais j'en ai listé 17, et il y en aurait sans doute beaucoup plus à rajouter. Mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a une immense diversité et qu'il faut tenir compte de ça pour atterrir finalement sur Romain 13. Alors, je crois que l'heure est déjà presque passé. Non, on a encore un petit quart d'heure, donc on va pouvoir attaquer Romains 13 ensemble. Et je vais partager mon écran tout de suite pour que vous puissiez voir ce que j'ai noté sur Romains 13. Et on va juste aborder le texte un petit peu ensemble. Et puis, voilà, je pense que là, vous voyez mon écran. Parfait. Je vais juste démarrer sur le texte. Et puis comme ça, ensuite on fera une pause, enfin un petit temps de questions, et puis ensuite une pause. Voilà le texte de Romains 13. J'ai mis ici juste les versets 1 à 5, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'après les deux derniers versets, c'est plutôt vraiment un autre sujet. Je lis donc le texte, toujours dans la version Second 21. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. On va juste voir le début de ce texte avant la pause. Et je l'ai juste réarrangé. Donc c'est exactement le texte tel que vous avez dans une Bible Second 21 que j'ai écrit ici, mais je l'ai réarrangé pour qu'on voit un petit peu l'enchaînement des idées et puis pour clarifier un petit peu comment les choses fonctionnent. On a tout d'abord un principe qui nous est donné par Paul, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Paul parle d'un présupposé. On a tous, quelque part, des autorités. Il peut y avoir plusieurs échelons et Paul n'est pas en train de dire que vous devez vous soumettre plus à certaines autorités. Il est en train de dire qu'il y a des autorités qui existent dans nos structures sociales et c'est pas seulement le roi ou c'est pas seulement le président de la République ou le conseiller fédéral en Suisse ou le maire. C'est vraiment tout type d'autorité. Donc ici, on pourrait dire que voilà, qu'il s'agisse de voilà, l'ensemble de l'appareil d'État, la police, voilà, les instituteurs, etc. On est tous, d'une manière ou d'une autre, sous une certaine autorité. Mais il s'agit spécifiquement ici des autorités qui nous gouvernent. Donc il s'agit vraiment de ce qui appartient à cet appareil d'État, qui est au-dessus de nous. Et là, Paul nous donne une série de raisons. Pourquoi on devrait se soumettre à ces autorités. Premièrement, car toute autorité vient de Dieu. On l'a dit, hein, même les autorités mauvaises, même les autorités qui persécutent le peuple de Dieu, d'une certaine façon, en fait, elles font la volonté de Dieu. Deuxièmement, celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pas tout à fait un synonyme. Ça va encore un pas plus loin. C'est pas juste que le principe général de l'autorité vient de Dieu, c'est que, effectivement, Dieu gère tout. Et parfois, on est un peu désappointé en pensant à voilà, une personne d'autorité. On se dit, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi tu as permis que un tel ou une telle soit dans cette position d'autorité? Et franchement, on ne comprend pas parfois pourquoi. Mais pourtant, on peut faire confiance que Dieu les a établis. C'est lui qui les a placés. Peut-être pour notre bien, peut-être pour notre jugement, mais c'est toujours Dieu qui les a placés. Ensuite, il continue avec, avec ses raisons pourquoi il faut se soumettre aux autorités qui nous gouvernent. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. En fait, c'est à cause du jugement. On s'oppose à Dieu. En fait, s'opposer aux autorités, c'est s'opposer à Dieu. Alors, on verra. Il y a des nuances. On en parlera tout à l'heure. Mais malgré tout, le principe général est là. S'opposer aux autorités sans raison, c'est s'opposer à Dieu. Et c'est très touchant, moi, je trouve, de voir comment les huguenots, hein, les protestants français au XVIe, XVIIe siècle, pendant, voilà, juste après la Réforme et puis pendant la période de l'édit de Nantes, étaient durement persécutés. Et pourtant, dans beaucoup de leurs écrits, on verra si j'ai l'occasion, je vous en lirai un petit extrait tout à l'heure, dans beaucoup de leurs écrits, ils manifestent leur soumission aux autorités. Et donc, ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Non seulement c'est résister aux autorités, c'est résister à Dieu, mais en plus, c'est se mettre sous une condamnation. Et puis, finalement, ceux qui font le bien n'ont pas à craindre de la part des autorités, parce que en faisant, enfin, normalement, l'État promeut le bien. On va le dire tout à l'heure, ce n'est pas toujours le cas, mais normalement, l'État promeut le bien. Alors, je m'arrête là sur cette première partie de notre texte, donc les trois premiers versets, et puis on va passer à un temps de questions, et puis tout à l'heure, après la pause, on passera à la suite du texte.
Merci beaucoup, Jonathan, pour ton exposé puis ton introduction extrêmement intéressante pour nous replacer ces questions d'autorité, de rapport entre Israël et l'Église en perspective. Et puis, oui, on a déjà quelques questions.
C'est ça.
Je rappelle que vous pouvez les poser au moyen du petit onglet QNR qui se trouve en bas de votre écran. Et la première question, une question qui est souvent débattue parmi les chrétiens, est-il possible qu'un vrai chrétien fasse de la politique?
Ouais, on en parlera. Et bon, je peux en dire un mot déjà maintenant. J'ai prévu d'en parler dans la fin de l'exposé. Je ne veux pas donner trop de réponses absolues sur cette question parce que je crois que la Bible ne va pas jusque-là dans une précision en matière d'absolu. Donc je crois qu'il y a un peu de place sur cette question, sur ce type de question-là pour, voilà, c'est possible d'avoir différentes options et je vais vous dire mon point de vue sur la question. Hein, donc je ne botte pas en touche. Je vais vous dire mon point de vue, mais je le dis avec humilité. Et je crois qu'il y a des frères et des sœurs qui ont d'autres options par rapport à cette question-là que je respecte et qui sont sauvés et voilà, avec lesquels on est des frères et sœurs. Donc c'est pour dire, je vous donne ma version, enfin ma vision par rapport à cela, mais je le fais vraiment avec humilité. Moi, je répondrai oui. Je crois qu'il faut distinguer l'Église en tant qu'organisme. Et les chrétiens en tant qu'individus. Moi, je crois, je dirais toujours que enfin, je crois, en tout cas, ça c'est mon point de vue aujourd'hui, que l'Église devrait vraiment être apolitique. Elle devrait s'abstenir de, si ce n'est peut-être dans des fois des débats vraiment éthiques, absolument clairs au regard de la parole de Dieu. Mais sinon, de manière générale, je pense que l'Église ne devrait pas promouvoir un parti politique ou s'engager dans la politique. Pour autant, je crois que c'est tout à fait légitime et c'est même bon. On l'a vu, hein, enfin, si vous lisez Jérémie 29, la lettre que Dieu adresse aux exilés, c'est bon en fait d'œuvrer pour le bien de la cité. Et du coup, je crois qu'à titre individuel, c'est une bonne chose en fait de s'inscrire, de s'impliquer dans la politique, que ce soit à travers de partis évangéliques. On a en Suisse des partis évangéliques. Alors, je sais que les Français, ça les fait toujours un petit peu. Ils sont toujours un peu surpris de ça, mais oui, on a des partis qui sont très minoritaires, mais quand même qui existent, et je pense que c'est bien parce que ça montre une voie. Ou alors dans les partis existants, pourquoi pas dire que voilà, moi je vais servir Dieu dans un parti politique. Je pense que c'est quelque chose qui est possible. C'est pas quelque chose qui est facile parce qu'on est voilà sans cesse un petit peu dans des situations de compromis, parce qu'évidemment en tant que chrétien, on s'attend à être plutôt une minorité, mais c'est quelque chose qui est possible et même, je pense, qui peut être bonne. Voilà.
Merci pour cette réponse à une question importante. Et puis, on va passer à une question suivante. Dieu a installé toute autorité. Approuve-t-il toute autorité? Et puis, se soumettre à cette autorité, s'il ne l'approuve pas, est-ce que ce n'est pas finalement une désobéissance à Dieu?
Ouais, tout à fait. Ça aussi,
Raisonnement.
on en parlera tout à l'heure. Je pense qu'il faut comprendre que le thème de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, elle a plusieurs facettes. Par exemple, et c'est peut-être le cas le plus flagrant, c'est à la croix. Est-ce que Dieu veut que son fils meure sur la croix? Non! Dieu veut pas sacrifier son fils parce qu'il l'aime. Mais Dieu le fait par sa volonté, parce qu'il veut nous sauver. Vous voyez ce que je veux dire? Et de la même façon, de façon un peu similaire, est-ce que Dieu veut Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnezzar en fonction des traductions, hein, l'empereur babylonien, un type terrible, enfin voilà. Non! C'est un type qui est opposé à Dieu quasiment sur toute la ligne. Et pourtant, est-ce qu'il va l'utiliser comme un moyen de juger son peuple, qui est finalement, c'est justice que Dieu utilise ce moyen-là, et ça montre la justice de Dieu, bah oui. Donc, est-ce que Dieu approuve toute autorité? J'ai envie de dire, dans sa volonté, si on peut peut-être qualifier comme ça, peut-être dans sa volonté morale, non, Dieu n'approuve pas toute autorité. C'est sûr que on peut imaginer qu'il y a une espèce de gradation, hein. Il y a certains régimes d'État qui sont plus approuvables que d'autres. Je peux imaginer à la Corée du Nord ou enfin voilà, d'autres pays où la situation est vraiment dramatique. Mais dans sa volonté souveraine, Dieu maîtrise absolument tout. Il maîtrise tous les chefs d'État de la terre. Et du coup, d'une certaine façon, oui, Dieu veut ces chefs d'État. Donc là, c'est vrai que les mots nous manquent un petit peu pour marquer la nuance entre les deux. Vous voyez un petit peu la distinction. Et puis il y avait une deuxième partie à la question, mais je ne me rappelle plus maintenant.
Est-ce que ce n'est pas une désobéissance finalement
Ouais.
d'être soumis aux autorités
Tout à fait.
qui sont permis, enfin, qui gouvernent mal?
Ouais. On en parlera quand on arrivera à la fin de ce texte. Il y a un deuxième principe qu'il faut ajouter au principe de la soumission, il me semble. Sinon, on arrive à un déséquilibre. Et c'est là que je disais, ce texte de Romains 13, c'est un texte qui parle du rapport à l'autorité, mais il y a d'autres textes dans la Bible. Et on va en parler quand on arrivera à la fin de ce passage de Romains 13.
Très bien. Il y a encore deux questions qu'on va prendre.
Vas-y.
Une, ben c'est vrai que je pense à ces deux questions qui viennent de nos frères africains.
OK.
Et je comprends ces questions aussi. En considérant ce qui se passe en Afrique, on se demande si Dieu peut établir une mauvaise autorité qui maltraite ses sujets en vue de garder son pouvoir. Et une question relativement similaire qui touche aussi à la même problématique, faut-il se soumettre aux autorités qui gouvernent mal ou par défi? Et voilà, ça c'est question de nos frères africains qui vivent parfois effectivement dans des régimes
Dur.
particulièrement durs ou corrompus.
Ouais. C'est là que, là aussi, je voulais montrer toute cette histoire d'Israël et de l'Église, hein. Il y a eu toute cette diversité, et en fait, cette diversité, elle est encore plus grande quand on considère le monde actuel. Il y a tout type de gouvernement. Bon, tous les gouvernements sont des gouvernements humains, donc il y a toujours un degré de corruption, qui soit, enfin, peu importe le pays, mais c'est vrai qu'il y a objectivement des gouvernements ou des États qui sont plus mauvais ou plus corrompus que d'autres. Il y a des systèmes d'État aussi qui sont naturellement plus enclins à la corruption que d'autres, malheureusement. Donc je crois, et d'ailleurs les prophètes le font assez régulièrement, ils critiquent l'autorité. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est légitime, de critiquer l'autorité sur ses failles. Mais ça ne veut pas dire nécessairement critiquer n'est pas nécessairement désobéir. Alors, faut le faire avec sagesse, etc. Mais obéir ne signifie pas nécessairement approuver. Je vous donne un exemple. Alors, je sais que c'est très modeste et je le fais avec humilité par rapport à des frères africains qui vivent peut-être dans des situations plus difficiles. Mais ici en Suisse, on a un système où, voilà, qui privilégie davantage les propriétaires de biens immobiliers, les propriétaires de maisons ou d'appartements par rapport aux locataires. Et actuellement, j'en fais les frais. On a un propriétaire qui nous impose une augmentation du jour au lendemain de 60% de nos loyers. Et la loi suisse donne raison à notre propriétaire. Donc moi, je me soumets à l'autorité dans le sens que je dis, ben voilà, j'ai essayé de m'opposer, mais la loi va contre moi. Donc je me soumets à cela. Pour autant, je ne l'approuve pas. Je crois qu'il y a vraiment quand même une injustice. Qui est pas bonne. Donc voilà, mais je choisis quand même de me soumettre. Donc je sais pas si cette illustration elle répond un petit peu à cette question-là. De nouveau, je le dis avec humilité parce que je sais que c'est un petit problème hein, qu'on a. Ici en Suisse, on a voilà, globalement un État qui est quand même favorable, qui permet la paix, etc. Mais quand même, on vit tous d'une certaine façon cette frustration d'être dans des systèmes imparfaits.
Merci pour cette réponse. Je vais te laisser avec la dernière question,
Oui.
puisque tu l'aborderas, c'est le verset 4. C'était il y a une question sur le sens du mot serviteur ou bien esclave, mais j'imagine que tu y répondras ou tu pourras y répondre quand tu traiteras cette partie de texte. Alors, je
Parfait.
vais vous proposer de faire une pause. On va vous laisser 5 bonnes minutes. À bientôt.
À tout de suite.